Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Isabelle Saporta, éditrice Louis de Ragnel d'Europe 1 et Louis Haussalter de Marianne. On évoquait cette enquête du Cevipof. C'est une vaste étude. Elle part sur plus de 10 000 personnes. Ce n'est pas juste un sondage, évidemment, avec des chiffres frappants. On a parlé effectivement du fait que les Français ont l'impression que leur démocratie fonctionne mal. Ils sont 47% à vouloir le rétablissement de la peine de mort. 63% à penser qu'il y a trop d'immigrés en France. 61% à penser que l'islam est une menace pour la République. Louis Haussalter, c'est une photo très sombre, très pessimiste de la France à l'instant T.
Ça dessine un pays déprimé, vieillissant, en crise de civilisation. Oui, c'est vrai, c'est dans la lignée de la plupart des tendances qu'on observe sur l'état de l'opinion de ce pays fatigué, en fait, et fatigué pas seulement par le Covid, à mon avis, et puis de cette société où... Il y a un repli sur soi, mais le repli sur soi est individuel, plus que nationaliste en fait, en réalité. C'est ce que Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli décrivent dans leur bouquin dont tout le monde a parlé, où il y a une société de bulles qui se forme, et en fait, face à cet état de déprime générale, on préfère se replier sur ce qui en fait est le cocon le plus confortable, le plus rassurant, qui est la sphère privée, familiale, sur la maison individuelle avec jardin, sur un confort de vivre. Ça, c'est la traduction, à mon avis, de cette situation politique. Ensuite, je rappelle que Macron avait dit, il avait lui-même constaté vers le début de son quinquennat plutôt, j'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants, qui aurait été le défi qui serait posé à n'importe quel président, lui comme un autre, effectivement, au début de son mandat et après un second tour face à Marine Le Pen. C'était effectivement le défi numéro un. Il y a eu les gilets jaunes. On sent qu'il a essayé de saisir le Covid comme occasion de réunifier la nation, mais à mon avis, déjà, c'était pas une guerre, contrairement à ce qu'il a dit. On n'était pas en guerre parce qu'il n'y avait pas un ennemi identifiable qui déferlait sur la nation. Il y avait un virus qui contaminait le monde entier à parts égales et auquel il fallait répondre et auquel tous les pays ont répondu. Donc, c'était pas forcément la bonne occasion pour refaire la France unie. Il n'y a pas réussi. Maintenant, ça va être un enjeu, évidemment, au cœur de la campagne présidentielle.
Isabelle Saporta.
Moi, ce que je trouve assez amusant, c'est que les Français ne sont pas dupes du tout. C'est-à-dire que vous parliez d'Emmanuel Macron et vous dites qu'il a voulu réconcilier les Français et ses élites. Je ne crois pas. Je pense que Macron, ça a été le premier dégagisme. Le dégagisme des CSP+, mais c'était le premier dégagisme. Il voulait, soi-disant, mettre à bas la technocratie et la technostructure. Et en fait, on ne l'a jamais eu aussi présente. Mais alors là, ce qui est assez amusant dans ce sondage qu'on regardait tout à l'heure, c'est que Laurence Ferrari, c'est que là, on a quand même 52% des Français qui disent non, mais les experts et les élites, laissez-la plutôt, en fait, laissez-les gouverner plutôt que le gouvernement. Donc en fait, il y a une telle défiance vis-à-vis des politiques qui disent oui, bon, les technocrates, c'est vrai, c'est pas facile, mais en fait, laissez-les dedans, c'est toujours mieux que des politiques. Et tout à l'heure, vous parliez de Jean-Laurent Casselli et vous parliez de Jérôme Fourquet. Ce qui est quand même très intéressant dans leur livre, qui est quand même très très bien fait, c'est chez des concurrents, mais on peut quand même dire que c'est très très bien fait.
Au seuil.
Non, le livre est vraiment très bien fait.
Oui,
c'est que. Non, mais c'est vrai.
Très bien fait. Très bien.
Allons-y sur le constat, parce que le bouquin est passionnant.
De fait, c'est que, en fait, sur la question, par exemple, de la désindustrialisation. OK, mais les Français, ils ne sont pas dupes. Ils l'ont vu, la désindustrialisation. Et quand tu regardes le cas de Fourquet, ils l'ont vu, ils l'ont vécu. Ils savent que c'est dans ces endroits-là qui sont les plus frappés qu'il y a un vote, effectivement, du Rassemblement national. Si vous voulez... Il n'y a pas que des bulles décrites dans le livre de Jérôme Fourquet et de Casselli. C'est qu'il y a un vrai déclassement. Et là, ce que raconte malgré tout ce sondage, c'est ça aussi. Morosité, tristesse, difficile et un déclassement dont ils savent qu'il a été économique et dont ils craignent maintenant qu'il soit aussi culturel. Donc, ce que les chiffres que vous soulignez tout à l'heure sur cette peur culturelle. Donc, on voit bien le déclassement économique. On nous avait dit qu'il n'y avait pas. Il y a, on l'a ressenti. Il ne nous reste au fond qu'une fierté culturelle. Et celle-là, on essaye de nous l'enlever aussi, donc c'est très angoissant.
Louis Dragnel, sur cette étude.
Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Isabelle Saporta. En fait, je pense qu'il y a un besoin de choc d'autorité, ça se voit. Il y a beaucoup d'items qui sont en lien avec l'autorité. Quand on parle de crise de la démocratie, déjà, je pense qu'aussi c'est la déconnexion qu'il y a entre le peuple et la classe politique que vous évoquiez. Là, pour le coup, je pense qu'il y a des raisons systémiques, c'est-à-dire que à trop vouloir introduire la transparence, à vouloir mettre fin au cumul des mandats, je pense que le passage du septennat au quinquennat a complètement complètement abîmé en fait cette capacité du peuple à se faire entendre beaucoup plus régulièrement, à être proche de son député maire, qui avait ensuite la possibilité de d'obtenir par exemple des subventions pour des associations ou alors pour des, je sais pas, des un stade de foot dans une petite commune très loin de Paris et qui voit rarement en fait l'argent sonnant et trébuchant qui vient de Paris. Et je pense que vous voyez, tout ça c'est des petits symptômes et qui expliquent en partie cette crise. Ensuite, sur le rétablissement de la peine de mort, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Français n'ont plus confiance dans la justice. Sur l'immigration, encore un problème non réglé. Sur l'islam, encore un problème non réglé. Donc c'est une sorte de litanie aussi des problèmes non réglés pour lesquels il y a eu beaucoup de promesses, notamment faites par la droite, et les gens y ont cru et se sont dit, ça y est, telle politique met des mots, et donc on y croit, il y a un diagnostic, et puis patatras, il ne se passe rien. Et je vous donne un exemple, le bilan qui est migratoire du gouvernement qui a été présenté mercredi dernier, et l'illustration de ça, il y a eu beaucoup de mots très forts d'Emmanuel Macron, et on se rend compte aujourd'hui que les chiffres de l'immigration sont catastrophiques. La deuxième chose, qui est beaucoup plus social, qui est plus lié à la crise des gilets jaunes. Moi, j'identifie deux choses. C'est que, en fait, on nous a vanté, et notre génération, cher Louis, c'est pas du tout contre vous, chère Isabelle, mais on nous expliquait. Ouais, non, mais moi, je me souviens. Non, mais moi, je me souviens à
Laurent,
l'école. On nous expliquait que les pays développés, c'était les sociétés de services. Et que les pays industriels étaient quasiment les pays en voie de développement. Enfin, moi, je me souviens, c'était les premiers cours d'économie que j'ai reçus. Et en fait, du coup, on s'est complètement enfermé dans cette logique-là. Et aujourd'hui, on revient sur la nécessité d'avoir des actifs tangibles. Et l'actif tangible, c'est l'industrie, c'est l'écosystème qu'il y a autour aussi de cet actif. Et puis, c'est ce qui développe le sentiment de puissance. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on importe, en fait, on est dépendant sur des choses essentielles, de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je pense que ça, c'est très important.
On n'a toujours pas de vaccin, accessoirement.
Exactement. Et la deuxième chose, et ça, c'est vraiment beaucoup plus lié à la crise des Gilets jaunes, c'est qu'on a expliqué pour leur bien à beaucoup de Français qu'il fallait qu'ils aillent dans des villes nouvelles, qu'il fallait qu'ils sortent des villes et des campagnes pour leur bien toujours. Et en fait, c'est la crise de toutes ces personnes qui sont dans la fameuse France périphérique et qui explosent et qui crient contre les élites. Mais en fait, ce modèle-là...
Pour l'instant, ils crient pas, hein, mais...
Non, mais qui a crié, en tout cas.
Ils peuvent, ça peut reprendre.
Et ça montre que si vous voulez, c'est des gens qui ont cru aussi dans la parole publique par rapport à ces promesses-là, ces promesses d'émancipation, de liberté, d'épanouissement individuel, pardon. Et ils se rendent compte aujourd'hui que non, c'est pas un modèle de bonheur et d'épanouissement tel qu'il était promis par les sachants il y a une trentaine d'années.
Moi, je voulais juste rebondir parce que je vous ai laissé passer crème comme ça. On n'a pas répondu au problème de l'islam. Je vous l'ai senti répéter plusieurs fois. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème de l'islam, si vous voulez. Le seul problème qu'il y a en France, c'est un problème d'intégration et qui est effectivement qui ne fonctionne plus, de méritocratie qui ne fonctionne plus. Et aujourd'hui, effectivement, les musulmans sont pour une partie grandissante de la classe politique, notamment à l'extrême droite, devenus le bouc émissaire idéal.
Vous ne croyez pas qu'on peut voir la chose dans l'autre sens ?
Non. Moi, je pense
avec un problème, il y a trop d'immigrés qui effectivement ont fait venir mécaniquement, vont développer la présence de l'islam de manière pas toujours contrôlée sur le territoire français. Il y a eu une sorte d'enclave ethnique qui existe aujourd'hui sur le territoire. Je pense notamment à la Seine-Saint-Denis. Et du coup, ça donne le séparatisme.
Ces enclaves, comme vous dites, on les a constituées, nous, parce qu'on avait besoin de cette main-d'œuvre qui a été parquée. Qu'aujourd'hui, on ne soit pas capable, au fond, d'offrir un modèle méritocratique et d'intégration à une partie de la population française est une des fautes morales, politiques, et qu'il faudra traiter. Et je suis désolée, mais pointer du doigt les musulmans ne résoudra en rien les problématiques d'intégration auquel peut être confronté ce pays. C'est toujours, si vous voulez,
il y a quand même une question d'assimilation, Isabelle.
Et après, la question, pardonnez-moi, mais moi, si vous voulez, on ne peut pas. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois qu'il y a des périodes où, au fond, moi, je suis petite fille d'immigrés. Alors, effectivement, ce n'étaient pas des musulmans. Mais, si vous voulez, je ne vais pas dire d'ailleurs de quelle confession nous étions. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, il n'y a pas eu de problème d'intégration parce qu'aussi l'école fonctionnait bien, parce qu'aussi il y avait de la croissance et parce qu'aussi il y avait l'intégration et que nous n'étions pas parqués, effectivement, par lieu comme c'est aujourd'hui le cas.
Il y a une question culturelle, il y a une question de de nombre.
Oui, non, mais moi,
les immigrés sont toujours regroupés ensemble. Hein.
Moi,
je parle de l'immigration italienne. Les Italiens étaient toujours au même endroit, tous ensemble.
Capital culturel commun, il y avait une religion commune.
Ça n'a rien à voir avec, effectivement, ces banlieues dans lesquelles... Bon, enfin, quoi qu'il en soit, de toute façon, moi, cette question de faire des musulmans de France, les boucs émissaires idéaux, en fait, des problèmes de la France, moi, je pense que, si vous voulez, j'entends Éric Zemmour, hein, j'ai bien compris qu'une fois qu'il n'y aurait plus, en gros, de musulmans en France, tout ira bien, Madame la Marquise, j'ai peur que ces électeurs soient très, très déçus. Hein, parce qu'en vrai, il n'y aura pas de solution magique comme ça. Hein. Et puis, par ailleurs, cette solution magique, elle sous-entend quoi ? Excusez-moi, hein. Moi, je suis très très gênée par ce discours qu'on entend vous voyez, se distiller et qui me gêne.
Il y a quand même la place de l'islam en France et dans la République.
Oui, ça te un petit mot, on fera une pause entre temps.
Deux choses. Un, l'intégration de l'islam dans la République, effectivement. Je vous invite à regarder le dernier reportage de Zone Interdite sur le sujet qui montre qu'il y a des enclaves frérot-salafistes. Ça, c'est un courant précis de l'islam. C'est-à-dire que effectivement, on ne parle pas dans l'ensemble des musulmans, ni même de leur majorité.
Qui a délégué la formation des imams à l'étranger? Pardonnez-moi, on est fautif aussi. Qui a fait que cette politique n'a pas été...
Il y a eu trop d'immigration à contrôler.
Il faut tirer les leçons des erreurs.
Parce qu'on n'a pas choisi...
Attendez, on va juste faire une pause. Vous aurez la parole en retour de pub, mon cher Louis, parce que vous voulez développer votre raisonnement.
Merci.
A tout de suite, dans Punchline sur Europe 1.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Dans Punchline, on évoque cette grande étude du Cevipof qui parle notamment de l'immigration. 63% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés en France, que l'islam représente une menace pour la République. Votre analyse, Louis Asselter?
Oui, parce qu'on partait du... Isabelle pointait le fait que les musulmans peuvent servir dans certains discours politiques de bouc émissaire. Je parlais donc des dérives de l'islam radical, comme la mouvance frérot-salafiste qu'on a encore vu à l'œuvre récemment. Mais en fait, je pense que le fond de cette affaire revient à ce dont on parlait, c'est-à-dire le déclassement. Ce qui intégrait, ce qui faisait aussi l'assimilation, c'est le fait que vous aviez l'usine qui employait plein de gens, qui faisait vivre un territoire, qui rayonnait.
Le service militaire.
Le lien social. Il y avait des structures aussi comme le service militaire. C'est-à-dire que dans une société plus prospère et un peu plus ordonnée, y compris par l'État, l'assimilation se faisait plus facilement parce qu'on crée tout un tissu de sociabilité et de dépendance qui rendait cela possible et qui fait que chacun ne se regardait pas selon son identité, sa religion, sa couleur de peau. Et c'est ça, en fait, qui est frappant dans le changement des mentalités. C'est-à-dire que quand on lit la littérature, les reportages des années 50-60, il n'y a pas du tout ce réflexe identitaire qui consiste à désigner l'autre par sa religion, sa couleur de peau, son origine, alors même qu'il y avait déjà pas mal d'immigration en France et que des chocs culturels auraient pu se produire. Donc, tout le déclassement que décrivent d'ailleurs Fourquet et Castelli dans le livre dont on a parlé est un facteur d'explication de ça, un énorme facteur d'explication. L'usine intégrée, le bassin de vie intégré, le fait que des territoires vivent d'un tissu économique intégré et qu'on voyait aujourd'hui des villes complètement fracassées par le déclassement parce que l'usine a fermé, parce qu'il n'y a plus la grande entreprise familiale qui était là, parce que tout le monde a dû partir.
De la religion aussi.
Qu'il y a des zones commerciales à l'infini.
Exact, parce qu'on a implanté des supermarchés à l'entrée de la ville et que le petit commerce est mort en centre-ville. Pour toutes ces raisons-là, on a cassé ce tissu socialité.
Un dernier mot là-dessus.
Isabelle Saporta, vous avez parfaitement raison. Il y a eu une désertification, une diagonale du vide qui s'est complètement installée dans toutes ces campagnes de France, avec un sentiment de relégation et d'abandon de la part de toute une population, de toute une partie de la population, qui donne au fond aujourd'hui un affrontement qui est entre guillemets d'une province qui se sent totalement abandonnée et qui regarde du coup les banlieues en se disant mais au fond je suis ça, je ne bouge pas et je suis abandonnée, les banlieues qui sont aujourd'hui au fond bouillonnantes ne le sont pas. Or c'est au fond elles sont pareillement abandonnées. La vérité, c'est ça. Donc, je ne sais pas aujourd'hui comment tu reconstruis du lien pour faire en sorte que chacun ne se regarde pas en chien de faïence en pensant que l'autre est coupable de tout.